Bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode du podcast Hack & Speak. Je vous remercie pour les retours que vous avez faits sur le premier épisode dédié à Pixis et son outil Elsassi. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y faire un tour et me donner votre avis. Le sujet du jour, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est la recherche de vulnérabilité sous Windows. C'est un sujet qui est méconnu et mystérieux. L'idée de cet épisode, c'est d'aller chercher les informations directement de la part de quelqu'un qui en a fait et qui en fait. Et pour cela, j'ai la chance de pouvoir interviewer une personne qui a notamment été dans le top 100 du classement Microsoft Most Valuable Security Researcher de 2020. Il est notamment l'auteur de l'outil PrivaceCheck, dont on parlera plus en détail dans ce podcast, mais aussi de pas moins de 7 CVE en 2020 sur Windows 10 et Windows Server. Cette personne, c'est Hitman, ou Clément Labro. Vous êtes déjà sûrement tombé sur un de ses articles de blog si vous êtes déjà intéressé aux CVE Windows ou aux vulnérabilités Windows. Vous avez sûrement déjà aussi utilisé son outil PrivaceCheck en mission ou durant un lab, et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera l'occasion de découvrir son travail dans ce podcast. Alors, je ne vais pas faire attendre les auditeurs plus longtemps. Hitman, bienvenue à toi.
Merci à toi de me recevoir.
Et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, ou ceux qui te connaissent mais qui ne savent pas d'où tu viens, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?
Oui, effectivement. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Clément. Donc, j'utilise sinon surtout le pseudo Hitman sur les plateformes Twitter et GitHub, où je publie mes outils. Et sinon, juste pour retracer mon parcours rapidement, pour que les gens puissent situer un peu... voir un peu comment j'ai commencé, comment j'ai commencé dans le pentest. Donc moi d'abord, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur réseau dans un grand groupe industriel français. Et puis en fait, j'ai commencé en tant que pentester seulement en 2015. Et en fait, à cette époque-là, j'étais extrêmement actif sur la plateforme RootMe notamment. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer dans cette profession. J'ai continué le pentest jusqu'en fin 2019. Et là, à ce moment-là, donc j'ai eu un choix à faire, soit continuer dans le pentest, soit me lancer dans la recherche de vulnérabilité sous Windows. Mais ça, on en reparlera juste après. Et puis finalement, ça a duré quelques mois. Et là, je suis de nouveau pentester depuis mai dernier.
Merci pour cette présentation. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'aimerais revenir au tout début. C'est que tu as dit, je me suis intéressé à la recherche de vulnérabilité sous Windows. Donc, dans le monde du pentest, il y a quand même plein de branches, qui est l'Active Directory, le bug bounty avec plus du web ou des challenges type, comme tu as dit, RootMe, Newbie Contest ou Hack the Box. Et finalement, toi, tu décides de partir dans la recherche de vulnérabilité sous Windows. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour te lancer là-dedans, plus au lieu d'une autre branche? Est-ce que c'était le hasard, en fait? Tu as trouvé quelque chose et puis tu as continué? Ou vraiment, c'était déjà un plan que tu avais et quelque chose que tu voulais vraiment te lancer dedans à fond?
Alors effectivement, c'est ni un déclic, en tout cas c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça du jour au lendemain, c'est plus le dernier point que tu as mentionné, c'est vraiment un processus assez long qui s'est fait sur plusieurs années finalement. Donc comme je disais, il n'y a pas eu vraiment de déclic en fait, c'est plus finalement le gros point de départ, c'est que moi j'ai finalement, j'ai commencé à avoir un certain niveau en tant que pentester, quand j'ai commencé à être un peu confirmé, j'étais finalement assez frustré par ce que je faisais, parce que j'avais, enfin voilà, quand on est consultant en sécurité, quand on est pentester, on doit faire une presta sur 3-4 jours, donc on doit aller très vite, on n'a pas forcément le temps de creuser des sujets, et moi j'avais un peu cette frustration là de me dire j'applique ou du moins j'utilise des outils qui sont faits par d'autres gens, j'utilise des techniques qui sont publiées par d'autres gens, mais à un moment donné, moi, j'aimerais bien être capable de faire la même chose, en fait, et de pouvoir trouver moi-même mes propres vulnérabilités, développer mes propres outils, etc., etc. Donc ça, on va dire que c'est le gros point de départ. Et donc, il y a aussi un autre point qui m'a beaucoup... motivé pour faire cette recherche de vulnérabilité aussi, c'est en fait le fait que je lisais beaucoup de blog posts pour me renseigner sur des techniques et sur des outils, en fait, quand j'étais pentester, tout simplement. Et notamment, il y a un chercheur en particulier qui a beaucoup participé finalement à ma, en fait, qui m'a motivé pour me lancer dans la recherche. C'est James Forshaw, qui est une des références aujourd'hui en matière de recherche de vulnérabilité sous Windows. Donc c'est pas le seul, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, voilà, sa façon d'écrire, tout ce qui, tout ce qu'il écrit dans dans ses blog posts, vraiment, voilà, il partage beaucoup de ses connaissances. Et c'est vrai que c'est une mine d'or quand on est pentester et qu'on veut aller un peu plus loin, creuser des sujets sur Windows. Et donc après, pour enchaîner là-dessus, justement par rapport à ces lectures, c'est justement ce qui m'a permis, moi après, c'est à peu près courant 2019, ce qui m'a permis de trouver ma première vulnérabilité sur Windows. Et donc c'est à partir de là où je me suis dit que peut-être je pourrais me lancer dans ce type de recherche.
C'était quoi le nom de ta première habilité? C'était sur quoi? La toute première, du coup?
La toute première, c'était, alors j'ai plus j'ai plus l'identifiant de la vulnérabilité en question en tête, mais c'était une vulnérabilité de type déplacement de fichiers arbitraires, à part en exploitant une fonctionnalité de tracing des services. Voilà, où en fait, on pouvait forcer un service qui tourne en tant que système, par exemple, à venir écrire dans un fichier de log et ensuite le faire déplacer vers un endroit arbitraire. Et donc, à la place d'écrire un fichier de log, on pouvait se débrouiller pour faire en sorte qu'il écrive une DLL à la place, par exemple, et mettre cette DLL n'importe où sur le système.
Donc à terme, du coup, c'est une LPE quoi. Enfin, le final, ce serait une escalade de privilèges système.
Ouais, voilà, exactement, c'est exactement ça. Ouais.
Ok. Lorsque tu fais toutes tes recherches, vu que tu étais pentester et que tu es redevenu pentester, est-ce que tu as fait ça en même temps que ton travail, c'est-à-dire sur ton temps libre, le week-end, le soir, ou est-ce que tout ce que tu as fait, tout ton travail, c'est quelque chose que tu as vraiment, où tu as vraiment dû t'investir à 100% dedans, et c'est quelque chose qui demande en fait un investissement, ou est-ce que c'est possible de le faire morceler le week-end, le soir?
Alors effectivement, là je te donnais justement l'exemple de la première vulnérabilité que j'ai trouvée. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé alors que j'étais encore pentester finalement. Et que c'est donc quelque chose que j'ai trouvé en dehors de mon temps de travail, sur mon temps perso, en plus des journées finalement de pentest, quoi. Donc là, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de recherches, beaucoup d'investissements sur son temps personnel. Après, est-ce que c'est viable sur le long terme? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, concrètement, c'est une démarche qui est assez inefficace. Bon, je pense qu'après, c'est une démarche aussi qui est assez personnelle, hein. Tout le monde aura une expérience différente potentiellement par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que la démarche elle-même est assez inefficace parce que en réalité, tu commences à attaquer un sujet, à faire des recherches sur quelque chose. Donc tu vas faire ça, par exemple, je sais pas, 2 heures un soir dans la semaine. Et puis le lendemain, tu auras fini ta journée, tu n'auras pas forcément envie de t'y remettre dessus. Il va peut-être se passer plusieurs jours comme ça. Il va peut-être se passer une semaine. Une semaine après, tu vas vouloir continuer. Mais là, forcément, donc, dans le meilleur des cas, tu auras pris des notes. Mais du coup, il va falloir que tu reprennes tes notes. Il va falloir que tu te dises, ah oui, effectivement, j'en étais là, j'avais vu ça, etc., etc. Et donc, tu vas passer, en fait, à chaque fois, tu vas perdre du temps. Peut-être une demi-heure, des fois, enfin, voire 1 heure. Et donc après, finalement, sur les 2 heures que j'évoquais au début, finalement, il va t'en rester qu'une où tu vas être vraiment efficace, où tu pourras vraiment faire avancer ton sujet. Donc effectivement, à ce titre-là, la démarche est assez inefficace. Et c'est pour ça que, comme j'ai évoqué, hein, quand j'ai retracé mon parcours au début, quand j'ai eu l'opportunité finalement, de me lancer et de me dire, voilà, pendant quelques mois au moins, je fais que ça, et voilà, j'ai fait ce choix. Et effectivement, c'était beaucoup plus prolifique comme démarche.
Prolifique, hein, puisque j'ai compté. En 2020, tu as 7 CVE à ton nom. Des CVE qui concernent que des vulnérabilités que tu as trouvées sous Windows et Windows Server, Windows 10, etc. En quelques mois, du coup, c'est pas un an, c'est pas le travail d'un an, c'est le travail de combien? De 3, 4, 5 mois?
Ouais, c'est ça, c'est ouais, 5-6 mois, quelque chose comme ça. Ouais.
5-6 mois, donc ça fait quand même pas mal, 7 CVE en 6 mois, sachant que les CVE, si je ne me plante pas, c'est principalement, ou peut-être tu vas me corriger, mais c'est que de la LPE, donc Locage Privilege Escalation, non?
Ouais, exactement. Là, pour le coup, c'est. Alors, pourquoi ce type de vue en particulier? Et en plus, sous Windows, je ne sais pas, je ne pourrais pas te l'expliquer. Mais effectivement, ouais, moi, c'est vraiment le
C'est un
sujet
peu le
qui.
Graal, ouais.
Ouais, bah le Graal, non, c'est ça reste quand même le RCE,
C'est
mais
vrai.
la LPE, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Donc toi, tu trouves des vulnérabilités qui sont très intéressantes, donc des local privilege escalation. Donc c'est passer d'un utilisateur normal sous Windows à système, donc le plus haut privilège. Est-ce que par rapport à ton passif de pentester, pour toi c'était une évidence d'aller déclarer toutes ces vulnérabilités du coup à Microsoft, ou est-ce que tu n'en as pas gardé une sous le coude pour ton futur métier qui est actuel de pentester, pour quand si tu arrives en interne chez client que tu es un peu bloqué, hop tout de suite tu as le moyen de monter en privilège, ou finalement tout ce que tu as trouvé, toutes tes recherches que tu as fait, ça aboutit à une déclaration auprès de Microsoft pour qu'ils patchent en fait la vulnérabilité que tu avais trouvée.
Alors effectivement, je vois où tu veux en venir.
Il faut être pentester pour comprendre là où je veux en venir.
Effectivement. Alors c'est vrai que ce type d'exploit peut être pratique, mais c'est pas forcément très utile. Je vais y revenir après, juste après avoir évoqué un autre point. C'est qu'en fait, déjà à la base, ma démarche, c'était quand même déjà de ma démarche de recherche de vulnérabilité sous Windows, c'était quand même à la base d'essayer de mieux comprendre le système d'exploitation en lui-même, être capable moi-même de trouver des vulnérabilités dessus, et donc aussi apprendre plein de choses, renforcer mes connaissances. Et quand même aussi, il faut l'avouer, c'est qu'il y a quand même Microsoft avait quand même un bug bounty qui était intéressant. C'est-à-dire que pour que les gens aient un ordre d'idée, s'ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas trop familiers du bug bounty sous Windows en particulier, même si je dis Windows, mais Microsoft a en réalité d'autres bug bounty qui sont spécifiques à certains produits, je sais pas, par exemple les produits cloud, etc. Mais il y en a un, effectivement, donc dédié à Windows 10. Et donc à l'époque, je dis à l'époque parce que ça a bien changé depuis, malgré le fait que ce soit à peine il y a un an et demi, une récompense pour une LPE, c'était environ 20 000 dollars. Donc ça, c'est un facteur qui est motivant aussi.
Et du coup, si tu. C'est 20 000 dollars à l'époque, quand tu dis que ça a évolué, c'est en mieux ou en moins
En
bien?
beaucoup moins bien, c'est-à-dire que
Ah, ok.
aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui, mais ça remonte à peu près à avril dernier, je crois, où Microsoft a refondu complètement son programme de bug bounty pour Windows 10. Donc a décidé de sortir toute une classe de. Enfin, mais à la limite, pas qu'une seule classe d'ailleurs, plusieurs classes de vulnérabilité du scope finalement du bug bounty. Et en plus de ça, ils ont largement diminué le montant des récompenses. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant.
Donc toi, t'étais à la bonne époque, c'est ça?
Alors moi, je suis tombé finalement, ouais, je suis tombé, je pense, un peu à la bonne époque, où en plus, je travaillais exclusivement sur une certaine classe de vulnérabilité qui était relativement accessible, je dirais, par rapport à des exploits, par exemple, de type corruption de mémoire. Où là aujourd'hui, c'est des choses qui sont très compliquées à exploiter parce qu'il y a tout un tas de protections qu'il faut contourner. Là, non, c'était plus des bugs logiques. Donc, exploiter par exemple des race conditions, essayer de faire de faire des manipulations de fichiers, donc forcer un service donné à faire une opération sur certains fichiers alors qu'on est simple utilisateur, voilà ce genre de choses.
C'est bien, du coup, c'est intéressant. C'est que toi, tu as été plus par rapport au temps que tu avais, aux connaissances que tu avais, tu as été plus vers le comment dire le quick win, le truc un peu plus simple qu'effectivement des heap overflow, des buffer overflow, etc. C'est deux choses bien différentes, mais finalement, c'est plus avantageux d'aller vers là où tu es allé, quoi. Parce que en termes d'investissement, je pense que pour le même investissement, tu peux trouver plus de choses, à moins que tu sois vraiment un expert. Mais là, on va partir du principe que, comme toi, hein, t'étais pas expert Windows, et c'est à force de faire des recherches que tu as acquis de la connaissance qui t'a permis ensuite de passer au level de rechercher carrément les vulnérabilités. Faut comprendre, mais c'est après il y a une autre level quand même qu'on se rend pas compte. On peut comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est aussi chercher la vulnérabilité, la trouver et l'exploiter aussi. Parce que si on lit tes blog posts, il y a quand même un level entre avoir un file delete dans le système, sur le système, fait en système, et arriver jusqu'à un shell système. Donc il y a quand même un delta assez important. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin, c'est ton blog, on en parlera à la fin du podcast. Sur tes 7 CVE que tu as trouvés, à moins que tu veux peut-être ajouter quelque chose à ce que je viens de dire.
Ouais, alors du coup, je veux juste répondre à la question initiale finalement où tu
Oui,
disais,
pardon.
tu disais est-ce que c'est intéressant d'avoir finalement une vulnérabilité sous le coude quand on est pentester et dire bah voilà, j'arrive sur un Windows et bah, je balance mon petit exploit et puis j'ai directement mon shell système et puis bah, j'ai même pas besoin de m'embêter finalement à chercher d'autres vulnérabilités. Voilà, je fais mon petit train-train et je passe directement à la suite, quoi. Alors effectivement, on peut penser ça. Le problème de cette démarche, c'est que quand même, en tant que pentester, à un moment donné, on doit fournir un rapport. Et il faut bien qu'on explique au client, dire, bah voilà, on est passé par là, on a fait ça, et voilà comment corriger. Donc effectivement, si tu arrives avec ta petite 0D et que tu balances ça sur la machine, c'est sûr que bah, en tant que pentester, tu n'auras pas forcément de valeur ajoutée. Du moins dans ton rôle de consultant, quoi, qui est quand même à la base, faut pas l'oublier, d'établir des recommandations pour qu'à la fin, bah, le client il ait un niveau de sécurité qui soit quand même plus élevé qu'au départ avant que tu viennes. Voilà.
Remarque très pertinente pour ceux qui font du pentest, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai que au final, elle sert à rien si tu as ta petite 0-day, sauf pour parfois prendre un raccourci et aller voir quelque chose que tu veux absolument voir dans le Windows et finalement vérifier si ton hypothèse est juste ou pas. Par exemple, ça pourrait être, je pense, récupérer la base ça, mais regarder si les mots de passe sont évidents ou pas. Mais on est bien d'accord que ça n'a aucun intérêt et ça n'apparaîtra jamais dans un rapport de pentest
Oui, alors
tel
effectivement,
quel.
le point que tu soulèves est intéressant, mais dans ce cas-là, en fait, à la limite, si vraiment tu veux vérifier qu'il y a un point particulier, tu peux toujours demander au client qu'il te fournisse plus d'accès que ce que tu avais. Et généralement, ça passe, et il va te les donner et ça va te permettre de vérifier ton hypothèse. En revanche, là où effectivement une 0D peut éventuellement servir, c'est si jamais tu fais du vrai red team. Parce que l'objectif du red team, c'est quand même de simuler une attaque plus avancée, essayer de ne pas se faire détecter. Donc potentiellement, si tu simules un attaquant qui est un peu plus avancé, tu vas, pourquoi pas, tu vas peut-être utiliser justement ce type
Non,
d'exploit
non,
pour.
mais c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas l'expérience du Red Team, hein, donc je poserai la question, hein, si ça se fait de mettre des 0-day. De la vision que j'en ai, moi, je dirais oui, comme toi, puisque effectivement, on est censé faire. C'est censé être quelque chose real world, on va dire, attaque. Donc, je poserai la question. On aura la réponse peut-être dans un prochain podcast. Hein, on verra bien. Mais revenons-en à notre sujet. Donc, sur ces CVE, tu en publies 7. Moi, j'aimerais celle qui t'a le plus marqué. Et si tu pouvais nous dire rapidement, en fait, celle qui t'a le plus marqué, ce que c'est derrière.
Ouais, alors sans trop hésiter, je pense que c'est la CVE 2020-07-87. Alors, j'ai pas, hein, là, j'ai pas tous mes identifiants vulnérabilité en tête. Hein. Celui-là, je le connais parce qu'il est.
Il y en a trop.
Ouais, non, il n'y en a pas trop, mais disons qu'effectivement, celui-là, cette vulnérabilité en
Ouais, je l'ai
particulier
trouvé.
était la plus marquante.
Alors pourquoi la
Concrètement,
plus marquante?
ouais, concrètement, c'était une vulnérabilité dans. Pour restituer déjà le contexte, hein, c'était une vulnérabilité dans le service Bits sous Windows. Donc, c'est un service qui est utilisé pour faire des opérations de téléchargement de gros fichiers en arrière-plan, très concrètement. C'est un service qui n'est pas forcément très connu, puisqu'en tant qu'utilisateur, on ne va pas forcément faire appel à ce type de fonctionnalité. Mais en réalité, c'est un service qui est assez utilisé par les autres services de Windows, justement. Et donc, la vulnérabilité en elle-même, c'était un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'était aussi un déplacement de fichiers arbitraires en tant que système. Donc, en tant qu'utilisateur, on pouvait faire en sorte que le service en question, Bits, qui tourne en tant que système, déplace un fichier qu'on possède vers un endroit arbitraire. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, hein, vers le dossier système 32, donc déposer une DLL, etc., etc. Et donc, pourquoi cette vulnérabilité en particulier? Parce qu'en fait, je crois que c'est la première vulnérabilité que j'ai trouvée en faisant uniquement du reverse engineering. C'est-à-dire que là, jusque-là, ce que je faisais, c'était bah voilà, je prenais une interface RPC. Donc, en gros, je listais les services qui étaient actifs, je listais leurs interfaces RPC, voire leurs interfaces DCOM. Je jouais avec ces interfaces, avec les méthodes qui étaient exposées, qui étaient accessibles en tant qu'utilisateur simple. Et bah, à côté, en arrière-plan, je regardais avec Process Monitor notamment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un outil qui permet de superviser
Pour ceux qui veulent débuter, hein, c'est on écoute.
Donc, Process Monitor, qui est un outil de la suite SysInternals, qui permet de superviser, de monitorer les opérations sur les fichiers, notamment, hein, il y a aussi les clés de registre, etc., mais notamment sur les fichiers. Et ça permet donc de voir tout ce qui se passe à un instant T. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir que, par exemple, on a un service système qui accède à un fichier avec ses privilèges sans prendre l'identité de l'utilisateur, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que. En fait, voilà, jusque-là, ma méthodologie, c'était ça. Et là, non, en fait, cette vulnérabilité en particulier, je l'ai trouvée en partant d'un service et je me suis dit, OK, je lise son interface, je lis ouais, ses interfaces DCOM, je regarde les classes qui sont exposées, les méthodes qui sont disponibles. Et à partir de là, bah, je fais du reverse engineering sur la DLL qui correspond à ce service. Et là, je regarde bah, comment sont implémentées concrètement ces fonctions. Et en fait, il se trouve que le service Bits et les interfaces qui sont exposées par ce service sont majoritairement plutôt bien documentées par Microsoft. Mais en fait, quand j'ai fait mon reverse engineering, je me suis aperçu qu'il y avait une différence sur une classe en particulier. J'ai trouvé qu'il y avait en fait deux méthodes qui était réellement accessible, mais qui n'était pas documenté par Microsoft. Et quand je me suis intéressé à ces deux méthodes et que j'ai regardé le code, je me suis rendu compte que dans l'une d'entre elles, ben en fait, c'était la seule fonction parmi toutes celles qui étaient exposées, c'était la seule qui ne faisait pas d'impersonation, donc qui n'usurpait pas l'identité du client quand elle était invoquée. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ben, potentiellement, ça veut dire que. On peut faire en sorte que le service Bits exécute une action arbitraire en tant que système et non pas avec nos propres privilèges. Et en fait, à partir de là, il y a eu toute une démarche où en fait, j'ai dû trouver un chemin pour pouvoir déclencher potentiellement cette vulnérabilité. Et donc là, c'est toute une démarche où il faut comprendre exactement à quoi servent les classes, à quoi servent les fonctions. Comprendre comment atteindre le chemin critique finalement et comment déclencher la vulnérabilité. Donc ouais, c'était un processus finalement super intéressant de de va-et-vient entre à la fois du reverse engineering et la consultation de la documentation et aussi de l'essai erreur. Enfin voilà, c'était quelque chose de c'était vraiment ultra complet. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est celle qui m'a le plus
Donc
marqué. Ouais.
CVE 2020 07 87 Windows Bits. Je mettrai le lien. Tu as fait un article de blog dessus, je mettrai dans la description de ce podcast. D'ailleurs, on en reviendra hein, sur le blog, comme j'ai dit au tout début, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Et je pense que c'est quand même une belle mine d'or concernant Windows. Mais revenons-en au CVE encore une fois. Tu es cité dans le top 100. Enfin, cité, tu es dans le top 100 par Microsoft du Most Valuable Security Researcher en 2020. Qu'est-ce que ça te fait finalement d'être dans ce top 100? Est-ce que c'était un objectif ou est-ce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau d'être dedans? Voilà, j'aimerais savoir un peu tes impressions quand tu as vu ton nom dedans.
Alors effectivement, c'est une bonne question. Bah en fait, c'était pas du tout un objectif pour moi. L'idée, comme je l'expliquais un peu plus tôt, c'était vraiment, je m'étais dit, bah allez, pendant quelques mois, je fais que ça. Je fais que de la recherche. Donc je travaille tous les jours sur ça. Et principalement donc, pour chercher des vulnérabilités qui donnent lieu à de la LPE, donc enfin, l'élévation de privilèges. Mais à aucun moment, je me suis dit, déjà, c'était à peine si je savais qu'en fait ce type de classement existait. Mais à aucun moment, je me suis dit, ouais, mon objectif, c'est d'être dans le top 100. Déjà, à la base, mon objectif, c'était déjà trouver une vulnérabilité. Hein, parce que, pour replacer resituer le contexte, quand je me suis lancé là-dedans, j'avais déjà trouvé une vulnérabilité avant de commencer. Donc, j'avais déjà de la matière, je savais déjà, j'avais un point de départ. Je savais que je pouvais déjà, j'avais déjà quelque chose à remonter. Donc, il ne me restait plus que le rapport à écrire finalement, donc un peu documenter ce que j'avais trouvé et remonter la vulnérabilité. Mais à part ça, je partais quasiment de zéro. Donc, j'avais juste, comme je disais un peu plus tôt aussi, quelques articles, quelques publications de James Forshaw sur lesquels m'appuyer. Mais voilà, à partir de là, j'ai dû ouais, tout chercher par moi-même et explorer les différentes pistes par
D'ailleurs,
moi-même, quoi.
quand tu fais tes recherches, est-ce que justement tu prends contact avec ces gens-là ou c'est question de personnalité aussi, hein, mais est-ce que tu es en contact permanent avec ces gens-là, par exemple James Forshaw, comme tu as dit, ou c'est vraiment totalement indépendant et puis c'est vraiment que de ton côté, quoi. Juste tu te bases sur leur blog pour en apprendre plus, etc. Ou est-ce que tu lis leur blog, tu n'hésites pas à les contacter, à demander plus d'infos sur des renseignements sur telle ou telle vulnérabilité qu'ils ont trouvée?
Alors non, pour le coup, c'est vraiment un travail complètement indépendant où en fait, je me dis, enfin moi, en fait, de mon point de vue, je me dis, c'est déjà énorme, c'est déjà super bien que ces gens-là publient des articles qui sont quand même déjà bien détaillés, où ils donnent beaucoup d'informations. Donc, il y a déjà suffisamment de matière à explorer. Il y a déjà une base de travail qui est quand même assez conséquente. Et finalement, en fait, je préfère avoir cette démarche d'aller creuser le sujet, même si je sais que je ne vais pas le comprendre tout de suite, hein, et c'était le cas. Hein, quand je parle de ces articles-là, bah, je ne les ai pas compris tout de suite. Hein, ce n'est pas la première lecture. Je me suis dit, ah, ok, là, j'ai tout compris, et bah, c'est bon, je vais pouvoir mettre en application. Et voilà. Non, j'avais pas assez de recul, j'avais pas assez de connaissances pour, du jour au lendemain, sauter dans l'application de ces méthodes. Donc non, ça passe par une énorme phase de travail où en fait tu lis une première fois, tu relis, tu attends plusieurs jours, tu relis encore, et puis au fur et à mesure, bah, tu commences à choper un peu plus d'éléments, et puis il arrive un moment où en fait tu as une série de déclics, tu dis, ah mais oui, en fait c'est comme ça que ça fonctionne, et voilà, et tout commence là.
Donc tu l'as dit un peu, hein, quand tu recherches une vulnérabilité, au final, c'est au début, ta démarche était un peu, comment dire, On va regarder ce qui se passe dans Windows avec Procmon, Process Monitor, etc., les interfaces RPC, etc. On va monitorer, on va cliquer sur tous les boutons et on regarde ce qui se passe. Ou est-ce que vraiment tu disais quand tu faisais ta recherche, je cible ce service, j'analyse tout ce service, tout ce qu'il fait, et je passe au suivant, et je passe au suivant. Ou est-ce que c'est vraiment... c'est un peu le... Voilà, on va à la pêche.
Effectivement, ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, il se trouve qu'en fait, au départ, c'est surtout, ouais, tu passes par une phase où, bah, tout simplement, tu t'essayes de cliquer un peu partout, d'explorer un peu l'OS, bah, tu lances des outils où tu dis, ah là, potentiellement, si j'utilise telle application, bah, ça veut peut-être dire que si je vais contacter en fait en arrière-plan, ça va peut-être contacter des services qui sont plus privilégiés. Je sais pas, par exemple, si je veux faire je sais pas, je veux consulter ou éditer mes paramètres réseau, je peux me douter que derrière mon application en fait, qui s'exécute en temps avec mes privilèges, va contacter un service qui lui aura les véritables privilèges pour pouvoir modifier ce type de paramètres. Donc voilà, en gros effectivement tu peux tout à fait adopter ce type de méthodologie, hein. Et d'ailleurs et quand je parle de méthodologie, même si ça le mot est peut-être pas forcément le meilleur ici, mais effectivement, c'est une démarche qui a été adoptée par d'autres personnes. Je pense que les gens connaissent peut-être sûrement Sandbox Escaper, voilà, qui a été connu pour aussi faire des publications dans ce sens-là. Plus récemment, moi, j'ai été en contact avec Jonas Leak, c'est pour les gens qui le suivent sur Twitter, ou du moins qui ont vu certaines de ses publications. Mais voilà, c'est un peu... je veux dire, c'est pas une démarche qui est
Donc il n'y a pas une
logique.
méthodologie à suivre, ça se passera toujours comme ça. Chacun
Voilà,
fait un
alors
peu
cela
comme il
dit.
veut déjà et il fait ce qui marche pour lui, on va dire.
Ouais, alors cela dit, effectivement, donc ça c'est une première approche qui est possible, qui
Ouais.
est tout à fait valable en fait, hein.
Donc c'était ta première approche, ça.
C'était ma première approche parce qu'au début, je ne savais pas trop où j'allais. Et puis après, j'ai adopté une méthodologie un peu plus, on va dire, un peu plus stricte, où là, je me suis dit, bah, OK, je regarde tous les services et je regarde toutes les interfaces RPC qui sont exposées et puis toutes les interfaces des coms et j'explore.
Tu as développé ta propre méthodologie et si tu continuais comme ça, parce que là tu as arrêté, mais si tu continuais comme ça, on pourrait considérer que tu avais ta méthodologie qui te permettait de continuer à trouver potentiellement des CVE.
Oui, exactement, parce que des CVE, enfin du moins des vulnérabilités sur des manipulations de fichiers que tu peux déclencher en tant que simple utilisateur, voilà, ce type de vulnérabilité est quand même très présent dans Windows, hein. C'est toute une finalement une classe de vulnérabilité. Et ouais, en fait, le gros problème là-dessus, c'est que Microsoft en fait ne récompense plus. Ce type de vulnérabilité. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est que c'est sorti
Ah ben
complètement du scope.
c'était ma prochaine question. J'allais dire, est-ce qu'on peut en vivre enfin, je veux dire, tu dis, allez, je fais ça full time. Est-ce qu'on peut en vivre pleinement? Ou est-ce que, ben, voilà, c'est ma question, ou est-ce que non?
Alors, est-ce qu'on peut vivre uniquement de la recherche de vulnérabilité et en plus que de la recherche de vulnérabilité sous Windows?
Je veux dire, avec les règles de maintenant, on va dire, avec les règles où c'est un peu plus strict et un peu plus. Ils ont downgrade un peu les primes.
Alors, la réponse, je pense qu'elle est quand même, oui, dans la mesure où tu fais ça full time. Donc, vraiment, tu fais que ça, quoi. Tous les jours, tu recherches que ça, que ce type de vulnérabilité. Mais le gros problème, effectivement, c'est que bah, il va falloir que tu en trouves beaucoup plus, ou du moins, si tu en trouves le même nombre, eh ben, voilà, tu vas être tout de suite beaucoup moins récompensé. Maintenant, maintenant où j'ai envie de dire, je vais plus nuancer ma réponse en disant que, ok, tu peux en vivre, mais il faut vraiment être très très bon et quand même être vraiment sûr de soi et se dire, ok, je sais que je peux trouver plein de vulnes et que ça va me permettre d'en vivre. Parce que le problème, en fait, c'est que derrière, il y a plusieurs problématiques, hein. c'est que déjà, il y a un facteur stress. Enfin, en tout cas, alors ça, c'est pour le coup, c'est très personnel. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, il y avait un facteur stress qui était assez important parce que finalement, bah, tu travailles sur un sujet à fond. Pendant des semaines, tu vas peut-être que tu vas rien trouver. Et puis d'un coup, en une semaine, tu vas en trouver deux, trois. Mais c'est assez finalement aléatoire. Ça va dépendre de ouais, ce sur quoi tu es en train de travailler à un instant T. Voilà. Donc déjà, tu as ce facteur-là. Et tu as le second facteur qui est l'aspect donc rémunération. Quand est-ce que tu vas être payé? Parce qu'il faut savoir que, alors, moi, je ne parle pas des bug bounty en général, hein, parce que je n'ai pas du tout une expérience des bug bounty dans d'autres domaines comme des applications web, par exemple. Moi,
Oui, d'ailleurs,
je
c'est
parle que du
intéressant.
bug bounty Microsoft.
Combien de temps ça met pour être payé?
Ouais, alors effectivement, bah, c'est à partir du moment où tu remontes ta vulnérabilité à Microsoft, où tu envoies ton rapport. Bah, il peut s'écouler 3 mois quoi, avant que tu reçoives ta prime.
Ouais, donc il faut déjà avoir une petite réserve.
Exactement. Et si t'as pas cette réserve-là, comme tu dis, et que tu as un loyer à payer à la fin du mois, bah, voilà, t'as intérêt un peu d'avoir cette réserve-là. Sinon, tu peux pas assumer tes
Non,
frais,
mais
tes frais
moi
personnels, quoi.
je retiens deux choses. Donc c'est possible hein, d'en vivre et de ne faire que ça, mais il faut être très bon et très persévérant. C'est ce que je retiens de ce que tu as dit, quoi.
Ouais,
Faut être très
exactement.
bon, faut être dédié,
C'est
quoi, hein, vraiment à fond, quoi.
il faut exactement. Tu peux pas te dire, je fais ça qu'à moitié quoi. Faut vraiment y aller à fond et ouais, comme tu l'as dit, être super persévérant
Et puis il y
et
a de la
après.
concurrence aussi, hein. Y en a pas qu'un qui cherche. Ça aussi le truc, c'est
Et
que peut-être que
exactement.
toi, ce que tu as trouvé, il y avait un mec qui était en train de se dire, ah, j'ai peut-être un truc, j'ai peut-être un truc, et toi, tu as sorti le truc avant, quoi. Donc il
Oui,
y a
exactement. Mais
aussi
d'ailleurs,
le.
ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de
Ah, bah
remonter des
voilà.
vulnérabilités où ben, en fait, j'étais que le deuxième, voire le troisième à la trouver. Et ça se joue, ça peut se jouer à quelques jours ou quelques semaines, hein, une ou 2 semaines. Il suffit que quelqu'un l'ait remonté ben, juste avant et tu seras quand même cité, tu seras quand même cité dans les entre guillemets, dans les remerciements, mais tu n'auras pas la prime, quoi. Donc c'est en fait, mais le bug bounty de manière générale, hein, c'est quelque chose
Ouais, c'est
qui est
un sujet plus vaste.
assez ingrat finalement, et où tu n'es payé que sur le résultat. Là où quand tu fais une prestation de pentest, bah, tu es payé plus pour des moyens, c'est-à-dire qu'on te dit, bah, voilà, pendant 4-5 jours, tu vas auditer telle application, ou tu vas auditer le réseau interne de tel client, et à la fin, tu produis un rapport. Peu importe si effectivement tu trouves des vulnérabilités critiques ou pas, peut-être qu'il n'y en avait pas d'ailleurs, ça va pas, au final tu vas être payé la même chose puisque tu auras fait ta prestation de pentest et tu auras rendu après un rapport voilà, qui va établir un niveau de sécurité donné à un instant T. Alors que là pour le bug bounty, bah non, c'est pas du tout ça. Là, c'est si tu trouves, t'es payé, si tu trouves pas, t'as rien du tout.
C'est un autre sujet, bug bounty vs
Ah,
pentest, que
j'anticipe
j'aurai
un peu alors.
peut-être, ouais, que j'aurai peut-être plus tard. Non, mais pour revenir au sujet pour le top 100 là, hein, du classement top 100 de Microsoft, je trouve que c'est quand même bien qu'ils fassent ce classement et qu'ils mettent en avant bah, justement les chercheurs qui ont fait du responsible, donc du. La remontée de vulnérabilité de manière responsable, c'est-à-dire sans balancer sur Twitter ou GitHub la day. Donc c'est quand même bien hein, finalement que c'est quand même une bonne démarche de leur côté qui. Bon, bon le classement, il te rapporte pas d'argent, mais bon, ça, t'as quand même ton nom quelque part. Si jamais tu postules à telle ou telle boîte, ça peut quand même vachement t'aider, je pense, d'avoir ton nom là-dedans, quoi.
Ouais, effectivement, je suis d'accord. Hein. C'est sûr que si tu dois changer de travail et que si tu recherches un autre poste et que tu arrives et que tu présentes sur ton CV, que tu as effectivement trouvé un certain nombre de CVE dans tel ou tel domaine, bah, effectivement, ça joue forcément en ta faveur, c'est sûr.
Et pour les auditeurs qui voudraient se lancer dans la recherche de vulnérabilité Windows, toi personnellement, d'après ton expérience, quel serait leur point de départ pour écrire des exploits? Quel langage finalement faut qu'ils maîtrisent pour écrire des exploits, les outils, etc. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ou des points de départ à leur donner?
Alors ça, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent et que j'ai eu plusieurs fois sur Twitter notamment, de gens qui me demandent bah, voilà, comment on fait pour se lancer dans la recherche. Alors déjà, j'ai pas la prétention d'être une référence en la matière, parce que moi, j'ai fait ça que pendant quelques mois et c'était très bien comme ça. C'était très, très bien pendant le temps que ça a duré. Et puis surtout, pour répondre à la question, en fait, je saurais pas comment faire exactement. Il n'y a pas de réponse unique, en fait, je pense. Ou du moins, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes. Et finalement, en y réfléchissant, je me dis que le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est en fait de se lancer sur n'importe quoi. Commencer dans n'importe quelle voie. En fait, à un moment donné, on se dit, ah, tiens, j'ai vu cette bulle, je comprends à peu près comment elle fonctionne, ou du moins je crois comprendre comment elle fonctionne. Bah, je vais essayer de reproduire moi-même, peut-être développer un exploit, parce que
Reproduire une vulnérabilité déjà existante avec le write-up, etc. Bon point de départ, du coup.
ça. Et en plus, j'ajouterai à ça que généralement, ce qu'on voit, ce qui est publié sur Internet, donc sur Twitter, etc., sur des blogs, généralement, ça va être juste d'époque, en fait. Donc, comme là, par exemple, moi, j'évoquais là les vulnérabilités de type manipulation de fichiers, bah, ça, typiquement, ça va donner lieu à des primitives. Alors, par exemple, un déplacement de fichiers arbitraires, une suppression de fichiers arbitraires, mais ce n'est pas un exploit en soi. C'est pas ça qui va te donner ton shell système. Donc en fait, là, c'est hyper
Toi, tu veux dire
intéressant.
d'aller jusqu'au bout?
Exactement. En fait, c'est à partir de si en partant du principe qu'il y a seulement un POC qui a été publié, bah, c'est d'essayer d'aller creuser un peu plus et déjà essayer de mieux comprendre la vulnérabilité, comprendre le POC, comment ça fonctionne, et après, bah, carrément développer en fait un exploit pour essayer d'obtenir vraiment de l'exécution de code à partir de cette vulnérabilité.
Donc, si on comprend bien la réflexion, tu es plus pour, tu es partisan des gens qui publient une fois que le patch est publié hein, et qui publient le poke ou l'exploit sur GitHub, enfin publiquement, contrairement aux gens qui veulent absolument pas que ce soit publié, que tout reste privé. Moi personnellement, hein, je suis pour qu'on publie une fois que le patch soit sorti, bien évidemment. C'est vrai que des fois, en fait, le patch sort. Alors Microsoft c'est un peu différent hein, parce qu'ils sortent le patch mais enfin ils sortent la CVE il me semble hein, tu vas peut-être me corriger mais en gros ils disent il y a eu une CVE mais le patch était déjà sorti avant normalement ils ont déjà patché les gens non je sais pas
Ouais, si, c'est exactement ça.
ouais
En
c'est
fait,
ça
tu as le fameux Patch Tuesday, donc qui est enfin, le deuxième mardi de chaque mois. Donc, il y a la série de patchs qui est poussée sur les serveurs de mise à jour Microsoft. Et donc, après, en fait, non, toutes les machines vont récupérer leur mise à jour. Et généralement, bah, ça le même jour, hein,
Et le même jour, donc au final. Ouais. Non, parce que ce que je veux dire, c'est est-ce que. C'est un autre sujet, mais après, on peut peut-être faire une petite parenthèse. Publier le POC d'une CVE que tu as trouvé qui te permet de faire une LPE, est-ce que publier le même jour où le patch sort, tu vois, le mardi, le patch sort, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'après toi?
Alors, franchement, on pourrait faire, je pense, une émission juste sur là-dessus, faire un débat
Ah, je
juste
demande
là-dessus.
juste ton avis.
Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait débattre de ça pendant des heures. En fait, ouais, il y a des arguments qui vont dans les deux sens. Moi, je sais que certaines vulnérabilités, j'ai attendu au moins un mois avant de publier le POC. Donc, j'ai. Pour certaines vulnérabilités, disons que j'ai attendu donc forcément déjà que le patch soit publié, ça c'est sûr.
Et même que le patch soit déployé au final.
Et alors que le patch soit déployé, tu peux jamais être totalement certain que le patch soit
Oui,
déployé
c'est.
partout parce qu'on sait comment ça marche, hein, le cycle de mise à jour en entreprise, c'est toujours très compliqué. Mais toujours est-il que moi déjà, j'attendais un peu déjà pour sortir l'article de blog qui correspondait à la vulnérabilité qui venait d'être corrigée. Et j'attendais généralement encore un peu plus pour publier le POC sur GitHub,
Ok.
histoire que que les
Non, non,
entreprises
mais
aient
c'est.
suffisamment de temps pour patcher,
En
quoi.
fait, je me disais, quand tu fais de la recherche, pour moi, c'est relié à la recherche, parce que quand tu fais de la recherche, tu as des CV, ok, mais il faut aussi que tu montres aux autres, donc à travers des blogs, etc., mais aussi des POC, hein, qui prouvent le code que tu as codé, etc. Enfin, et c'est pour ça que je posais la question. Parce que pour moi, c'est lié au final, peut-être pour se faire aussi, pour montrer au final tes résultats, c'est aussi de publier le POC. Tu peux pas tout laisser privé. Au bout d'un moment, il faut aussi que ça sorte pour que les gens voient aussi que tu t'intéresses à ces sujets-là et que tu travailles dans ces sujets-là. Et peut-être qu'eux, ils te contacteront. Et voilà, ça pourra faire une collaboration entre deux chercheurs, etc. C'est sûr que si tout est privé, au final, il n'y a plus de
Alors,
collaboration,
effectivement,
sinon.
tu as raison, il y a cet aspect-là, mais je dirais qu'il y a aussi surtout l'aspect finalement où je sais que j'ai eu cette discussion avec un autre chercheur récemment, où en fait, enfin plutôt pas vraiment un chercheur, c'était plus un pentester, mais où en fait bah, tu te rends compte que quand tu vas en entreprise, que tu vas faire ton pentest et que tu arrives sur un Windows et que ta seule recommandation, c'est de dire bah, il faut mettre à jour parce que tu vois que le niveau de patch
Ah oui, je vois où tu veux en
est pas
venir,
au
ouais.
niveau. Et ben, le problème, c'est que si tu n'as on va dire, aucune preuve tangible pour montrer ça, pour montrer qu'effectivement, il y a un risque à ne pas mettre à jour régulièrement ton environnement, ton parc de machines Windows, et ben, en fait, tu as beaucoup moins de poids que si tu arrives avec un POC. Et que tu l'exécutes et tu montres, et voilà, effectivement, je suis utilisateur, et là, je peux passer système, parce que la machine n'est pas à jour.
Non, mais ouais, c'est une très très bonne remarque, et puis ça fait le lien avec le pentest. Et ouais, je suis complètement d'accord avec ce point de vue. Ok, donc là, ah non, j'avais une dernière question sur la recherche. Tu as pas parlé au niveau des exploits et tout. Moi, j'ai vu sur ton GitHub que tu faisais tout en C++. C'est un prérequis indispensable, maîtriser le C++ pour faire des exploits. Ou toi, tu connaissais rien et t'as appris sur le tas?
Alors là aussi, c'est une vaste question. Alors déjà, tu as mentionné le C et C++. Faut savoir qu'en fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est quand même très majoritairement en C, en réalité.
Ah ok,
C'est
mais
de...
je me suis trompé, tu vois.
Non, non, mais je veux dire, c'est légitime, hein, on peut légitimement se poser la question. Mais c'est à 95% du C, en fait. J'utilise du C++ uniquement pour les plus gros projets, quand je fais des outils vraiment particuliers qui nécessitent un peu plus de dev et un peu plus de structure. Mais sinon, c'est majoritairement du C. Alors effectivement, après, on peut se poser la question, pourquoi le C en particulier? Donc pour ceux qui ne seraient pas effectivement familiers de ça, faut savoir que sous Windows, si on veut interagir facilement, j'ai envie de dire, avec le système, on va faire appel à l'API Windows ou l'API Win32, comme on peut l'appeler aussi comme ça. Et en fait, tous ces appels, ils se font en C, en fait. Donc c'est un passage qui est plus ou moins obligatoire. Après, bon, pour l'autre partie, la seconde partie de ta question par rapport à l'apprentissage, moi, j'ai appris un petit peu le C quand j'étais en école d'ingénieur, mais voilà, à l'époque, je comprenais vraiment rien. Enfin, c'est quelque chose qui, non, non, c'était un langage qui était totalement, qui
Ah, moi j'ai
dépassait
abandonné, je suis
totalement parce
parti
que c'est.
sur Python. Et hop.
Ouais, voilà. Enfin, c'est pareil. On apprenait des langages plus haut niveau que ça. Et c'est vrai que quand on me parlait de pointeurs, moi, j'ai découvert l'informatique en école d'ingénieur. Avant, je connaissais finalement très peu, vraiment l'informatique. Et quand j'ai découvert ça, les notions de pointeur, j'y comprenais vraiment rien du tout. Et en réalité, donc peut-être pour la petite anecdote, ce qui m'a aidé en fait à comprendre le C, c'est de faire des challenges README. C'est-à-dire de faire les challenges de pawn sur README, donc exploiter les buffer overflow, les
Il y
choses
en
comme
a
ça.
ouais, spécial Windows. Moi
Alors.
j'en ai fait certains et c'était que des Linux, c'est pour ça que je demande.
Alors voilà, non, mais moi, effectivement, mais c'est la même chose, hein. J'ai commencé sur Linux aussi. D'ailleurs, pour compléter l'anecdote, hein, mes deux premières évaluations de privilège, mes deux premières CVE, c'est sur du Linux d'ailleurs. Donc j'ai vraiment commencé là-dessus. Et donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où je dis, bah, en fait, où je donnais comme conseil de finalement, quand on veut se lancer dans la recherche de Vuln, il faut commencer quelque part, peu importe. Ben ça, ouais, ça corrobore vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, tu sais pas où des fois la recherche va te mener et tu commences sur un sujet et peut-être que tu vas choper des éléments par-ci par-là qui te serviront plus tard. Et voilà, et typiquement, c'est donc pour revenir à ce que je disais, c'est typiquement le cas avec l'apprentissage du C. Moi, le fait de me forcer à comprendre comment fonctionnaient les exploits sur, par exemple, de corruption de mémoire, style buffer overflow sur la stack, etc., bah, tu es obligé à un moment donné de comprendre comment fonctionne la mémoire. Donc, et c'est
D'accord,
là
donc
où
en
tu
fait,
vois,
voilà,
tu visualises finalement les points
c'est
communs,
les
etc.
c'est les ok c'est les chals, donc pour RootMe, hein, pour ceux qui connaissent, c'est dans la partie app system. Là, je suis devant, il y en a je ne sais combien de chals, de buffer overflow, de heap overflow, etc. Et du coup, voilà, à force d'en faire, finalement, t'as appris quoi.
Le fait de comprendre comment ton exploit fonctionne en mémoire, comment ton buffer overflow finalement, comment ton tableau que tu vas surcharger à un moment donné, comment ça se fait qu'il va écrire, il va réécrire une adresse à un endroit donné et qui va te donner de l'exécution de code, etc. En fait, voilà, c'est le fait de visualiser vraiment en mémoire comment sont stockées les données et le simple fait que, par exemple, voilà, quand tu parles d'un pointeur, bah, en fait, en mémoire, c'est simplement une adresse. Et quand tu déréférences ce pointeur, bah, tu vas voir la valeur qui est ça, à cette adresse.
D'ailleurs, pour les auditeurs, hein, y a, moi je connais RootMe et Newbie Contest, je sais pas si t'as déjà été dessus. En français, c'est des sites de challenge français pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a deux, il y a Newbie Contest et RootMe. Et je pense que tout le monde a fait ses armes sur un des deux, au moins. Bref, on s'égare un petit peu du sujet. Et pour refaire le lien, on va parler maintenant d'un autre sujet. Et ça, ce sera dans une deuxième partie, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de temps. On va faire une deuxième partie sur ce podcast. Donc, ce sera l'épisode 3. Et dans cet épisode 3, nous allons parler des différents outils que tu as créés. Parce que tu as créé trois outils qui sont PrivCheck, Sprint Proofer et Full Power. Donc, j'en ai sélectionné que trois sur le nombre d'outils que tu as fait qui sont disponibles sur ton GitHub. On va parler plus en détail de ces outils dans la partie 3, dans le numéro 3 du podcast Hack and Speak. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à les faire sur Twitter. Je les lirai et Clément les lira sûrement. De mon côté, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour ma part, c'était très très intéressant. C'est un sujet que moi-même je ne connaissais pas beaucoup, la recherche de vulnérabilité Windows, et même on a fait un petit peu plus, hein, de manière générale aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour l'épisode 3.